ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Françoise Lourdoux. Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et vous venez nous parler du dialogue judéo-chrétien comme remède à l'antisémitisme. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre éducation, mais surtout de votre voyage à travers les siècles comme historienne, à travers la Pologne, également avec Vatican II et avec les groupes d'amitié judéo-chrétiens et diverses autres choses. D'abord donc votre éducation et votre culture. Je crois que vous avez fait Cagnes, Hippocagne à Saint-Cernin.
Oui, j'ai fait Hippocagne et Cagnes à Saint-Cernin. J'ai été étudiante à l'université donc de Toulouse, le Mirail, comme historienne en histoire. Et ma première rencontre avec le judaïsme, en fait, a eu lieu en 1978, lorsque Isaac Bashevis-Zinger a eu le prix Nobel de littérature.
Oui, parce que c'est un écrivain yiddish que certains ne connaissent pas beaucoup, pas en tout cas à la mesure de ses qualités comme poète, et il était très engagé.
Voilà, donc c'est un écrivain américain d'origine polonaise, mais qui avait la particularité d'écrire ses œuvres en yiddish et de les transposer lui-même en anglais. Parce que le texte, il faut savoir que le texte yiddish et le texte anglais n'est pas tout à fait le même. Voilà. Et donc, mais il reconstitue, en fait, le monde de ce qu'on a appelé le Yiddishland, et qui est un monde qui a complètement disparu après la Seconde Guerre mondiale.
D'où l'histoire des quartiers juifs, ce qu'on appelle le shtetl, et ça vous a donné, entre autres raisons, envie d'aller en Pologne, parce que c'était le moment de Solidarnosc.
Oui, au moment de Solidarnosc, j'ai eu l'opportunité, pendant deux étés, de suivre les cours de l'école d'été de l'Université Jagellon de Cracovie, et c'est là que je me suis rendu compte de la béance qu'avait laissée en fait la Shoah. C'est-à-dire qu'en se promenant à Cracovie, en particulier dans le quartier de Kazimierz, qui était le quartier juif de Cracovie, on constatait
que tout était à l'abandon.
Que le cimetière, entre autres, était à l'abandon. Et ça, c'est...
Pour vous, extrêmement émouvant. On sent dans votre voix que vous avez été choqué.
Et là, c'est un choc, d'autant plus que à l'université de Cracovie, on nous a amené visiter le camp d'Auschwitz, qui était pas très loin. Et c'est vrai que là, je l'ai visité avec des étudiants allemands, et ça a été aussi un grand moment d'émotion. Et ça fait prendre conscience physiquement de la béance qu'a laissée la Shoah. Et donc, j'ai voulu comprendre. À partir de là, j'ai voulu comprendre ce qui avait pu causer cet antisémitisme qui a anéanti en fait 600 000 personnes.
En 1982-83, alors vous avez dit, c'est pas la peine de parler de ces troubles à travers le Carmel d'Auschwitz. Et donc il y a déjà quand même des signes qu'il y a... une résurgence d'un antisémitisme, peut-être même anti-judaïsme, qui est profond dans la culture chrétienne. Et vous êtes de culture chrétienne, même si vous êtes passé par toute une série d'études qui vous font prendre une distance.
Oui, alors le deuxième événement qui a été important, c'est ma rencontre avec celui qui est devenu mon mari et qui m'a fait connaître...
C'était Jean-Louis Olmos, à l'époque, historien à l'université Jean Jaurès.
Non, pas historien, qui était l'aumônier de l'université du Mirail. Donc, on a travaillé avec mon mari, on a travaillé avec lui, et c'était à l'époque le délégué à l'œcuménisme et le délégué au dialogue interreligieux. Avec lui, nous avons participé à un événement qui a été assez important à Toulouse, qui a été Bible Expo, où étaient réunies différentes confessions chrétiennes et des membres de la communauté juive. Et c'est là que j'ai compris l'importance du dialogue qui avait été initié par le Concile Vatican II. Ce que je ne connaissais pas, puisque j'étais, moi, bien que de culture chrétienne, je n'étais pas catholique pratiquante.
Bible Exposition en Occitanie, c'est l'époque où Monsieur Planet, Henri Planet et son épouse, engageaient des groupes de réflexion à partir de la Bible. Et je crois que vous avez bien connu aussi le jésuite Henri Springer.
Oui, alors, à la suite de Bible Expo, j'ai voulu continuer donc le dialogue, approfondir le dialogue interreligieux, mais d'un point de vue plus laïque, on va dire. Et donc, le père Olmos m'avait conseillé de me rapprocher du groupe d'amitié judéo-chrétienne de Toulouse. Et donc, à cette occasion-là, c'est là que j'ai rencontré donc les travaux de Jules Isaac, l'historien qui a été à l'origine de ces groupes.
À ce moment-là, vous pouvez évoquer deux de ces livres, Jésus et Israël, et vous nous avez aussi apporté, ce sera dans quelques minutes, cette musique klezmer qui vous tient à cœur. Peut-être revenons à Jésus et Israël et au judéo-christianisme. Oui. Alors, c'est la genèse de l'antisémitisme de Jules Isaac.
Aussi, mais c'est le deuxième livre, ça. Le premier livre a été paru en 1946, donc juste après la guerre. Il a été écrit en grande partie pendant la guerre. Et à la suite de ça et des polémiques que ça a suscité, qu'a suscité le premier livre, il a continué ses recherches, Jules Isaac, et il a écrit donc Genèse de l'antisémitisme dans les années qui est paru, je crois, en 1950 ou en 1949 ou 50.
Il faut dire qu'à ce moment-là, dans certaines églises, il y avait toujours le vendredi la prière Oremus pro perfidis Iudaeis. Et c'était un moment sombre de cette histoire. Alors, revenez peut-être sur les 21 propositions que fait Jules Isaac. Et nous allons les évoquer avant cette petite plage musicale que vous nous avez proposée. Et puis, on fera le retour sur Jésus et Israël.
Alors, la première de ces 21 propositions, voilà, c'est « La religion chrétienne est fille de la religion juive. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur la base de l'Ancien Testament juif. À ce titre, le judaïsme doit inspirer le respect. »
Le deuxième point, c'est « Jésus dans les évangiles, son incarnation. »
Le Jésus des évangiles, Fils unique et incarnation de Dieu pour les chrétiens, fut dans sa vie humaine un juif, un simple artisan juif. C'est là un fait que nul chrétien n'a le droit d'ignorer.
Alors, on sait que dans certains cours de catéchisme, il était normal ou fréquent qu'on dise « les juifs ont tué Jésus ». Et comme si c'était, en fait... pas les soldats romains ou les autorités romaines qui ont été dans ce procès. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres que vous avez parcourus pour dire « Jésus rendu aux siens » ou même ce procès. Est-ce que historiquement ça tient ces trois jours?
Alors, pour un historien, le procès de Jésus, il n'y a pas de témoignage à part les évangiles. Donc, pour un historien, c'est assez difficile de se prononcer. Et moi, je ne peux parler en tant qu'historienne. Je ne parle pas en tant que théologienne ou en tant que chrétienne catholique. Non, en tant qu'historienne, on ne peut rien dire de ce procès. Mais il est de fait que c'est le gouverneur romain qui lui à tout le pouvoir politique. Donc ça passe par les Romains, même si les collabos qui étaient les prêtres et le prêtre du temple, donc le parti et le parti des prêtres a eu peut-être aussi son mot à dire, on ne sait pas.
Même si entre les Sadducéens et les pharisiens, il y avait toute une série de...
Voilà, donc la troisième proposition, telle que nous pouvons les connaître par les évangiles, juive était la famille de Jésus, juive était Marie sa mère, juive leur entourage et leur parenté, se dire antisémite et chrétien, c'est vouloir joindre l'outrage à la vénération. Voilà, c'est la troisième proposition de Jules Isaac.
Et comme historien, vous êtes aussi contre ceux qui pensent que Jésus c'est seulement un mythe et qu'il n'y a pas de personnage de l'histoire. Vous pensez qu'à travers les récits, les témoignages, alors qui sont peut-être d'une part les actes des apôtres ou les épîtres, il y a un moment de...
Non mais une chose, est, pour un historien, on peut lire, et c'est ce qu'a fait Jules Isaac, les évangiles, avec la méthode de l'historien. Et ça, c'est différent des théologiens qui, eux, le lisent d'une autre manière. Donc voilà, c'est deux façons de faire. Et moi, je ne me prononce que sur tout ce qui est historique.
Avec peut-être aussi les écrits de Flavius Joseph, même si c'était écrit bien après. Alors, tous ces moments, pour vous, comme intellectuel et comme personne qui est, disons, qui cherchait une certaine vérité avec une honnêteté, vous rencontrez des personnes, des théologiens ou d'autres personnes qui vont faire une sorte de roman ou un mythe. Et là, on entre dans le domaine de la foi et vous laissez à chacun en conscience de savoir qui est cette personne, ce rabbin de Nazareth. Nous allons revenir à l'Europe centrale avec cette culture klezmer et vous nous avez apporté donc une musique que Christophe va nous passer et vous nous redirez le contexte tout à l'heure.
Petit.
Et aujourd'hui, avec l'historienne Françoise Lourdoux, vous venez nous parler du dialogue judéo-chrétien, un remède à l'antisémitisme. Donc, cette musique de l'Europe centrale, musique klezmer, en deux mots, ici nous avons un disque avec un accent anglo.
Oui, en fait, c'est une musique klezmer qui est jouée par des juifs américains. C'est vrai que le klezmer, il y a un regain du klezmer. En France, par exemple, vous avez des chanteurs comme Talila, par exemple, qui remettent au goût du jour cette musique qui avait été un peu oubliée du fait que cette culture a été détruite. Et donc, il faut tout reconstruire.
Et vous allez, que ce soit avec l'amitié judéo-chrétienne, à l'espace communautaire, mais aussi avec les différentes sensibilités comme l'Association des Juifs libéraux qui organise des rencontres régulièrement avec des historiens qui viennent de différentes universités.
Oui, entre autres, on a eu récemment la venue de Dan Jaffe, qui est un historien de l'Université de Tel Aviv, et qui nous a parlé des recherches qui sont faites actuellement par une équipe israélo-française, franco-israélienne plutôt, qui a son siège à Aix-en-Provence, et qui étudie la naissance parallèle du judaïsme rabbinique et du christianisme.
Madame Paul Ohanaon est venue aussi ici témoigner de la vivacité de cette association des Juifs libéraux. Madame Anne-Gaëlle Attia, qui est la 7e femme rabbin de France, est venue aussi parler de Pessah, comme un autre historien, Monsieur Attali. Et nous avons différentes occasions rappeler l'importance des fêtes de Shavuot ou lorsqu'il y a un Mardoché et Esther. Et il faut dire que le calendrier actuel va fêter Pessah un mois après parce que c'est un calendrier lunaire et toutes les années bissextiles, il y a un déplacement d'un mois dans le calendrier. Mais c'est important que dans les écoles ou dans les lieux publics, il y ait ce moment où on soit au courant des dates de ces fêtes qui sont des moments de partage ou des moments où il y a un échange. Alors, vous avez également souhaité évoquer l'enseignement du mépris, on l'a vu avec Jules Isaac, et le Dieu des chrétiens, nul n'a le droit d'ignorer qu'il a ses racines, comme dit saint Paul, dans la lettre aux Romains. Vous vouliez aussi nous aborder un point.
Moi, je voudrais parler du dialogue et de l'étude commune, en donnant des exemples précis. Par exemple, je pense qu'il faut relire les textes en ayant à l'esprit ce que dit Jules Isaac dans une de ses propositions, c'est-à-dire que le Nouveau Testament est basé, en fait, pour socle l'Ancien Testament. Et lorsqu'on étudie chrétiens et juifs ensemble les textes, il y a des choses qui s'expliquent de manière différente. Je donnerai deux exemples. Premièrement, l'épisode du bon samaritain. Si on s'en tient à la lettre et à ce que le commun des mortels l'interprétation qui est communément donnée, le lévite qui passe ne s'arrête pas. Pourquoi il ne s'arrête pas?
Il faut qu'il aille faire son travail au culte.
Non, parce que est-ce que c'est par méchanceté pure ou parce qu'il n'a pas de pitié? Non. Ce qu'il faut savoir et ce que tous les juifs savent, c'est que le lévite, il se rendait à Jérusalem pour prendre son service au temple. S'il avait été en contact avec le sang du blessé, il était impur et il ne pouvait pas assurer son service.
En plus, il ne savait pas que c'était un samaritain.
Voilà. Donc, mais le samaritain, lui, il est d'une autre tendance du judaïsme et il n'a pas à respecter ses tabous. Voilà. Donc, à partir de là, on voit qu'il y a deux lectures différentes. La lecture qui a été traditionnellement donnée, c'est « Ah, parce que c'est un juif, il ne s'est pas arrêté parce que les juifs sont mauvais, point. » La deuxième interprétation que je voudrais donner et qui a fait l'objet d'un article commun entre Bernadette Escaffre, qui est exégète et qui a enseigné à l'Université
l'Institut catholique de Toulouse,
Et Monique Lise Cohen,
qui est venue deux fois ici,
qui est une philosophe juive et qui a beaucoup étudié les textes juifs. Et elles ont beaucoup travaillé sur cette phrase de l'évangile de Matthieu, me semble-t-il, que son sang retombe sur nous au moment de la passion de Jésus.
Et sur nos enfants.
Non, que ce sang retombe sur nous, et oui, et sur nos enfants, si vous voulez. Mais, et donc, voilà, donc l'interprétation qui était donnée, c'est que c'est une malédiction du peuple juif. Mais pas du tout, nous explique Monique Lise, c'est en liaison avec la bénédiction qui a été faite au moment du Sinaï, que la bénédiction du peuple par Moïse, le sang du sacrifice sanctifie le peuple et le sanctifie. Et donc, il y a là, pour Matthieu, qui est de culture juive, une analogie, c'est-à-dire que le sang de Jésus, l'agneau pascal, le sang de son sacrifice, va être notre sanctification. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on a voulu dire pendant des siècles.
Et c'est aussi ce qu'a dit Martin Pochon dans son gros livre sur la lettre aux Hébreux. Je voulais juste, parce que notre temps est bientôt achevé, mais que vous évoquiez tous les travaux qui sont faits, que ce soit Annette Wiewórka, vous êtes historienne, moi je suis plutôt sociologue, je parlerai plutôt de Michel Wiewórka sur l'antisémitisme actuellement en France ou même en Pologne, avec de nombreux ouvrages, de nombreuses enquêtes qui sont... tout à fait de l'actualité. Alors, nous avions entre nous, pour préparer cet entretien, dit que nous ne parlions pas des tensions au niveau international, mais on peut évoquer la question renouvelée avec les manuscrits de la Mer Morte, avec tous ces travaux qui sont publiés dans la revue Sens, et tout un travail où rabbins, exégètes, historiens et géographes travaillent ensemble à partir de l'archéologie ou à partir des découvertes scientifiques. Oui.
Et donc c'est pour ça que je pense que le dialogue et l'étude en commun est une voie, est une des voies les plus sûres pour faire vivre le principe de la laïcité, qui est un pilier de notre vivre ensemble et d'un vivre ensemble respectueux de tous les citoyens du monde. Il me semble que c'est essentiel, surtout à l'heure actuelle, de rappeler ce genre de choses.
Et vous vouliez conclure par le psaume 1 que vous avez retiré non pas de la Tob, parce qu'il y a des petites nuances dans la traduction, mais je vous laisse lire la traduction du grand rabbinique.
Donc je prends la traduction qui est donnée par la Bible du
grand rabbinat 1994.
Rabbinat, voilà. Donc c'est le psaume 1 parce qu'il me paraît être très... tout résumé. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi nuit et jour.
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira.
Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Aussi, les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. Amen.
Et moi je dirais que c'est déjà une théologie de la rétribution. Et c'est pour ça qu'il faudra sans doute que vous veniez et que vous veniez discuter avec d'autres théologiens ou avec des historiens comme ceux qui disent « Peut-on croire en Dieu après la Shoah ?» Dieu n'a pas besoin de preuves. Vous nous apportez votre science et à chacun en conscience de prendre cette question de la foi. En tout cas, on voit vos convictions et votre travail honnête et assidu. Merci, Madame Lourdou. À bientôt. Shalom.
Shalom.